Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport. Très heureux de vous accompagner ce dimanche matin. Vous le savez, les GG ne prennent pas de vacances. On sera là tous les week-ends en direct jusqu'à midi. Aujourd'hui, au programme, le Tour de France, bien sûr, avec la grosse étape de montagne que vous avez vécue hier sur RMC. Pogacar qui a repris quelques secondes à Vingegaard, qui ne lutte plus vraiment finalement pour la victoire. Alors est-ce que la Visma doit changer de stratégie, lâcher son leader pour les victoires d'étape? 32-16 pour en parler, on sera en direct du Tour dans un instant avec Jérôme Pinault. Nouvelle désillusion pour l'équipe de France féminine, éliminée hier soir dès les quarts de finale de l'Euro par l'Allemagne. Les Bleus ont pourtant longtemps évolué en supériorité numérique. Alors est-ce une faute professionnelle? Ce sera le bras de fer des GG. Ce sera à 10h. Et puis à 11h, les GG passent la seconde, s'intéressent à l'héritage des Jeux Olympiques. Cette semaine, le gouvernement a annoncé une baisse possible de 18% pour les missions jeunesse et sport. Est-ce que l'héritage des Jeux est déjà enterré? Sans oublier le zapping des GG, la punchline signée Lamine Yamal, la star du Barça ce matin. N'oubliez pas, hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio, le 32-16 pour participer au débat de nos GG. Avec aujourd'hui une GG qui, comme l'équipe de France féminine, aime quand les soirées s'éternisent. Simon Dutin est là. Salut Simon.
C'est vrai ça. C'était il y a longtemps ça. François, lorsqu'on s'est rencontrés.
On se connaît bien, hein.
Ouais, ben on s'amusait plus que hier soir.
Oui, c'était pas le même genre de soirée.
Non,
c'est vrai. Ça finissait peut-être mieux aussi. Pas toujours. Une GG qui, comme l'équipe de France féminine, est aussi une spécialiste des revers. Sarah Pitkowski, bien sûr. Salut Sarah.
Salut tout le monde. Tu m'as vu jouer?
Oui.
Ah ouais. Bah, t'étais dans le mille.
Bah bien sûr, je t'ai vu jouer.
D'accord.
Je suis vieux, hein, finalement.
Alors je sais pas comment je le prends celui-là.
Non, c'est pour moi. C'est.
Donc tu dois être plus vieux parce que j'étais plus jeune sur le terrain, forcément.
Je ne sais pas. Ouais. On fera les petits calculs en antenne. Je préfère pas le dire à l'antenne. Une GG qui, contrairement à l'équipe de France féminine, devait attendre la finale pour avoir la chance d'être commentée par Grégoire Margoton. Alison Pinault est avec nous. Salut Alison. Ah oui, elles ont de la chance. C'était les quarts de finale. Même en phase de poule, il y avait déjà Grégoire Margoton.
Tout à fait.
Oui, mais c'est parce qu'elles, on n'est pas sûr qu'elles aillent en demi-finale, la preuve.
Oh là. Oui, mais enfin, elle a ramené des titres.
Ça, c'est
les handballeuses.
Ah, bah oui, justement.
Ça,
évidemment.
C'est pour ça qu'il faut démarrer plus tôt.
Bon, c'était un honneur d'être invité par Grégoire Margoton.
C'était presque devenu la mascotte des commentaires. On se dit, ah, Greg, il va venir. Genre, ça porte chance. Vraiment.
Ah d'accord, ah, c'est marrant. C'est pas le cas avec l'équipe de France féminine, visiblement.
On
embrasse Greg Margoton qui nous écoute peut-être. Une grande gueule qui, contrairement à l'équipe de France féminine, bah, il sait tirer les pénaltys quand même. Olivier Giraud, salut Olivier.
Ça dépend.
Je sais que t'en as raté quelques-uns dans carrière.
Ouais, mais c'est loin. C'est bon.
Qu'on appelle des jets de 7 mètres. Hein,
ouais, pour être technique.
Est-ce que c'est plus facile de marquer un jet de 7 mètres qu'un pénalty en foot?
Okay.
Ou est-ce que c'est la même difficulté?
Bah, bien sûr que c'est la même difficulté.
D'accord. Non, parce que je sais pas,
après c'est la distance.
Quand même le but est plus petit.
Bah oui, mais c'est une question de répétition.
Moi j'ai toujours trouvé ça super dur, hein, les jets de 7 mètres.
Bah oui, bien sûr.
Pour moi.
C'est plus petit, mais du coup le gardien est aussi plus proche. Donc du coup il prend aussi beaucoup plus de place.
Ouais. D'accord.
Oui,
toi, t'es un spécialiste, hein, Alice.
Le ballon va plus vite, tu peux le faire rebondir, tu peux mettre des effets.
Oui, tout à fait. Au foot, tu peux pas mettre d'effets du coup.
Alison Pinault est en grande forme, elle est dans son match.
On va la jouer comme ça.
Deuxième GG pour elle, et déjà elle est en grande forme, elle est parfaite, et c'est pour ça qu'elle est là. Allez, pour commencer, cette citation d'Albert Einstein: tu n'échoues qu'au moment où tu arrêtes d'essayer.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
La voilà, l'attaque de Jonas Vingegaard. Et bien voilà, je vous disais, il faudra qu'il se passe quelque chose, que ça bouge. Et pour l'instant, Vingegaard a pris 2 mètres. Roglic est distancé. Et il n'y a que Lipovic qui arrive à suivre Tadej Pogacar. Attaque de Pogacar. Attaque de Pogacar. Alors là, attention, parce que ça peut changer les choses. Vingegaard attaque. Alors là, effectivement, c'est la bataille. Ça va être très très chaud. L'attaque de Tadej Pogacar qui lui a les mains sur les cocottes. Il attaque avec les mains sur les cocottes, alors que Jonas Vingegaard, lui, a les mains dans le guidon. Et c'est parti, Tadej Pogacar qui va passer devant Jonas Vingegaard.
Oula. On accueille Jérôme Pinault qui est avec nous sur cette musique. Il doit adorer ça, Jérôme. Salut Jérôme.
Salut à toutes et à tous.
Salut.
Merci d'être avec nous ce matin avant de prendre la route pour Carcassonne. Hein. On a besoin de toi pour ce débat sur le Tour de France ce matin. 4 minutes 13, c'est donc l'écart abyssal désormais entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le Danois qui s'est encore fait déposer sur la ligne hier, même s'il a attaqué quand même de temps en temps. Il était bien seul dans les derniers kilomètres. Hein. On l'a vu, le reste de son équipe a passé une partie de l'étape devant, Sepp Kuss, Simon Yates. Une autre partie a été lâchée trop rapidement, comme Jorgensen. La stratégie Visma, qui a été d'ailleurs critiquée depuis le début, devrait-elle être clarifiée? En gros, les GG, est-ce que la Visma doit lâcher Vingegaard et se concentrer, sous-entendu, sur les victoires d'étape? Oui ou non? Simon Dutin.
Non.
Alison Pinot.
Non.
Sarah Pitkowski.
Oui.
Olivier Giraud.
Ben non.
Jérôme Pinot.
Oui, c'était déjà fait.
Ah. Juste avant de vous entendre et qu'on en débatte, on va accueillir également Maria Azé qui suit le Tour de France pour RMC. Salut Maria.
Salut François, salut tout le monde.
Salut Maria.
Salut Maria. Salut.
Alors, je voulais voir avec toi, puisque cette Visma Lease a Bike, on en a beaucoup entendu parler depuis le début du Tour. Est-ce qu'elle a toujours montré une unité dans ce Tour de France?
Bah, moyennement. Déjà, ça a commencé par les déclarations de la femme de Jonas Vingegaard qui a déclaré que son mari faisait trop de déplacements et que ça nuisait à son équilibre. Ça, c'était en tout début du Tour de France. Donc, on se demande si ça a pas déstabilisé le Danois, car Jonas Vingegaard est bien loin du niveau de Pogacar qu'il avait battu sur le Tour de France en 2022 et 2023, même s'il a tenté hier d'attaquer avant l'arrivée à Superbannière.
En fait, il s'agissait surtout de viser l'étape. Je m'attendais à ce que la journée se passe dans la dernière montée. Puis quand j'ai réalisé que personne n'irait, j'ai décidé de le faire moi-même. Je suis content de la façon dont mes jambes ont réagi aujourd'hui. Faire cette performance à la fin d'une telle journée, c'est évidemment très agréable.
Depuis le début du Tour de France, la stratégie est claire, rouler fort pour épuiser les coéquipiers de Tadej Pogacar. Pour Sepp Kuss, les Visma Lease a Bike font du bon travail depuis le début du Tour de France.
Je pense que nous avons dicté un rythme qui était le nôtre. Vous savez, l'idée, c'était d'isoler Pogacar. Bien sûr, nous avons dû changer de stratégie, ce qui n'est pas du tout un problème. Nous utilisons les bons coureurs pour les bonnes situations et ça, nous le faisons de manière assez intelligente.
Pourtant, on n'a pas toujours compris le jeu des frelons. Lors de la victoire écrasante de Tadej Pogacar à Otakam, les Visma Lease a Bike ont roulé à forte cadence toute la journée, sauf qu'ils ont épuisé leurs propres coureurs, laissant Pogacar et ses coéquipiers faire leur jeu à Otakam. Le coéquipier français de Pogacar, Pavel Sivakov, n'en revenait pas après l'étape.
Tadej voulait gagner. Après, je pense que la Visma, on fait le boulot pour nous au final. Campanard s'est mis tout le monde dans le rouge, dans l'oblige. Il y avait même Jorgensen qui lui disait de ralentir, il a pas ralenti. Au final, je pense qu'ils se sont mis un peu une épine dans le pied et il aura sûrement manqué des coureurs dans le final. Donc voilà, pour nous, c'est une bonne journée, pour eux, moins.
En plus, les échappées de Simon Yates au Mont d'Or ou de Sepp Kuss hier représentent bien l'état d'esprit de la formation. La Visma roule aussi pour la victoire d'étape et plus seulement pour son leader. Dans le peloton, on ne sait pas trop où va l'équipe néerlandaise qui, en plus, doit travailler avec un Wout Van Aert et un Matteo Jorgensen bien en dessous de leur meilleur niveau.
Merci beaucoup, Maria. On te souhaite une belle route et une belle étape, évidemment, aujourd'hui. Intégral Tour dès 13h, hein, le dimanche, vous le savez, sur RMC pour suivre cette 15e étape. La Visma Lease a Bike a donc, on l'a vu, montrer des signes de faiblesse. Mais est-ce qu'elle doit changer de stratégie? Est-ce qu'elle doit lâcher Vingegaard? 32-16 pour nous rejoindre. Toi, Simon, tu as dit non.
Bah, je sais pas.
Ah bon?
Est-ce qu'elle va? Non, mais.
Tu sais plus.
Non, mais je sais pas comment. Jérôme dit, ils l'ont déjà fait. Est-ce que ils vont être confrontés au principe de réalité, à savoir que bon, on a compris que Vingegaard battrait pas Pogacar, en tout cas pas cette année. Sauf à considérer que le Danois ne jouera plus le général dans les années futures. Moi, je pense que la Visma, elle doit se servir de ce tour pour apprendre. Qu'est-ce qu'on apprend? Moi, je voyais un Jorgensen très fort. Il est beaucoup moins fort que ce qu'on pouvait s'attendre, ce qu'on pouvait imaginer au vu des premiers jours. Là où un Simon Yates, par exemple, est plus fort que ce que je croyais, je pense que ils doivent se servir de ça pour adapter leur équipe. Voilà, Wout Van Aert n'est plus le Wout Van Aert de 2022 qui avait contribué à faire exploser Pogacar grâce à une belle stratégie d'équipe il y a quelques années. Je pense qu'ils doivent continuer à s'étalonner par rapport à UAE et à apprendre pour construire.
Donc concrètement, est-ce que pour toi, il faut garder en tête le duel entre Vingegaard et Pogacar.
Ah bah oui. Et justement,
il n'y en a pas de duel en fait. T'étais à plus de 4 minutes, il n'existe plus ce duel.
Oui, mais donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis
aller chercher des victoires d'étape.
De toute façon, Pogacar il ne laissera pas Vingegaard partir. Donc quoi?
Non, mais aller chercher
Vingegaard, écoute Coco, tu t'assois dans un transat et puis
repense l'équipe. Repense l'équipe.
Moi, ce que je te dis, c'est qu'il va falloir repenser cette équipe et faire un gros chantier.
Mais là, tu parles d'après le tour. On nous dit pour cette fin de tour, est-ce qu'il ne faut pas justement changer de stratégie?
Tour, ils vont bien faire comme ils veulent. Le problème, c'est qu'ils sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls décideurs. Si tu veux aller gagner des étapes avec Yates, avec Jorgensen, avec Van Aert, il faut que de toute façon on te laisse partir. Ils le feront pas. Ils réussiront pas à le faire tout seul. Donc je vois pas en quoi ça changerait leur stratégie. Je vais certainement me faire dégommer par Jérôme.
On va l'écouter, Jérôme.
Qui gratte du sabot là.
Pas du tout.
Il est prêt à partir.
Non, pas du tout. C'est très intéressant ce que tu dis, mon Simon.
Je pense que ce serait ce délire. La Visma, c'est pas une équipe taillée pour venir jouer les étapes sur le Tour de France. Donc je pense que même en termes de crédibilité par rapport à, en effet, les offres que tu vas être obligé de faire à certains coureurs pour adapter l'équipe autour d'un Vingegaard qui, je pense, va encore sortir de là frustré, humilié et donc certainement revanchard. Je pense qu'il faut que tu continues sur ta stratégie. Mais même par rapport à tous tes sponsors, à tout ce que tu as vendu, à ton entourage commercial, à ton entourage marketing et aussi aux coureurs.
Ton entourage, c'est aussi d'aller chercher des victoires d'étape. Quand tu sais que tu peux plus jouer le maillot jaune qui était annoncé au début, t'as aussi une équipe.
Tu te soulages avec ça et tu te contenteras de ça.
Et tu peux au moins essayer de faire des attaques.
Un peu moins humilié.
Ouais. Oui, mais Jorgensen va certainement aller en chercher une maintenant qu'il a plus.
Oui, mais le certainement, c'est là la question.
La question, elle est donc là.
Vas-y, Jérôme.
La question, elle était là. C'est est-ce qu'ils doivent lâcher Vingo pour essayer d'aller gagner des étapes? Ah, ils sont en train de le faire. Puisque c'est déjà fait depuis que la femme de Vingegaard a démoli Van Aert. Bon, on a compris que Van Aert, ce serait ses étapes pour lui et c'est tout. Donc hier dans le Tourmalet, il s'est écarté. Je rappelle que Van Aert a été l'homme pour la victoire à Luzardiden, à Otakam en 2022, monté l'école. L'étape deux fois le Ventoux, il gagne aussi. Là hier, il monte pas plus de 3 km dans le Tourmalet. Il a beau pas être le même, je pense que lui, Vingegaard, c'est terminé. Jorgensen s'est vite écarté. Tige Benoît s'est vite écarté. Benoît, Van Aert, c'est deux coureurs qui sont très copains. Ils se sont écartés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une étape qui peut leur convenir. Donc, ils sont en train de lâcher Vingegaard gentiment. Les deux devant, on a bien compris que ça servait pas de relais, c'était pour essayer d'aller chercher l'étape. Kuss, Yates, ils ont fait 300 mètres dans le groupe maillot jaune. Donc, hier, il a Camp Panhard comme équipier et basta. Pourquoi? Parce que d'une part, ce sont les consignes, je pense. On laisse Vingo avec le maillot jaune, tu te débrouilles, t'essayes de le suivre. De toute façon, derrière, il y a de la marge et devant, c'est inatteignable. Et puis les autres, ils ont plus envie de faire le boulot. Les autres, ils ont plus envie de faire le boulot pour Vingegaard parce qu'ils le savent, ils sont moins forts. C'est ce que je disais hier à l'antenne. Les coureurs qui entourent Vingegaard, ils courent toute l'année. Ils courent toute l'année face à un Tadej Pogacar inatteignable, intouchable. Et eux, ils s'entraînent avec Vingegaard. Et ils ont beau faire des entraînements à haute intensité, ils s'aperçoivent très vite que le Danois, il est pas à la hauteur du Slovène.
Donc ils le savent. Ils le savaient avant même de partir.
Et tu te mets au service d'un mec dont tu sais parfaitement qu'il va pas pouvoir le battre. Bah dès que ça se voit, tu le lâches. C'est logique, c'est humain. Un mec comme Jorgensen, il a une étape du Tour dans les godasses. Il a pas envie de se mettre au service d'un mec qui va prendre entre 1 et 2 minutes par étape de montagne. Il a pas envie de faire ça. Il est peut-être payé pour ça, mais il y a les consignes et il y a ce qu'on fait sur notre vélo. Et c'est pour ça que je vous dis que oui, ils ont intérêt de le faire, mais ils ont déjà commencé. Mmh. Ils ont déjà commencé à lâcher Vingegaard pour aller chercher chacun leur victoire d'étape. Et en plus, pour Visma, un podium, une place de deux pour Vingegaard et 2-3 victoires d'étape, Sarah qui est dans la com, elle va vite comprendre que c'est facile de raconter une histoire. Mmh. On est les malheureux perdants face aux grands vainqueurs, mais on a brillé ailleurs, etc. Tu racontes une histoire. Si tu fais que deux, alors Yates a déjà gagné une étape, mais si tu te fais humilier comme il s'est fait humilier, comme il se fera humilier sur le Ventoux, comme il se fera humilier au col de la Lauze, il va finir très très loin. Et si tu fais pas la stratégie d'équipe pour aller en plus gagner des étapes,
et tu démobilises une équipe complète en fait,
de toute façon, elle est démobilisée. On l'a dit hier dans l'after, il y a un problème dans cette équipe. Il y a pas d'ambiance, il y a un problème entre les coureurs. Ça a été longtemps tenu par la victoire, par la supériorité, mais depuis que Vingegaard est largement inférieur à Pogacar, les tensions rejaillissent et il y a plus d'entente.
Donc voilà, c'est l'avis de Jérôme évidemment sur cette équipe Visma, et c'est vrai qu'il nous le dit depuis longtemps dans ce Tour de France. Allez, on va lancer la team des handballeurs là, face à Jérôme Pinault. Alison, toi tu penses qu'on ne lâche pas un leader comme ça?
C'est un tel désaveu pour moi de lâcher son leader comme ça en plein milieu du Tour. Il est, voilà, vous l'avez dit, il est derrière, c'est loin, devant, c'est inatteignable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dingue pour moi d'envisager une telle chose.
Ouais.
À ce moment-là du Tour.
Surtout que tu as construit évidemment ton équipe
autour de ce mec.
Aller chercher cette victoire autour de Vingegaard.
Complètement.
Qui s'est trouvé d'ailleurs très bien hier, hein, Olivier. Il a dit qu'il avait retrouvé des jambes et que c'était une bonne étape pour lui. Hein.
Vingegaard, il est à sa place. Hein. Le seul problème de Vingegaard, il s'appelle Pogacar. Hein. C'est-à-dire que si tu regardes le classement général. Et tu me demandes s'il devrait lâcher le leader. Il y a deux questions à répondre, il y a deux réponses à avoir là-dessus. Si tu regardes le classement, il est monstrueux, Vingegaard. Mais au-dessus, il y a un mec, il est intouchable. Et que tu regardes la composition de l'équipe de la Visma. C'est une équipe du PSG d'une certaine époque. Il n'y a que des mecs avec des égos incroyables à l'intérieur. Et tu l'as dit, Jérôme, ça ne tient qu'à la victoire. C'est comme ça qu'ils l'ont épuisé il y a plusieurs années. Et que Pogacar, très clairement, quand tu regardes chaque course, il n'a pas digéré ça. C'est-à-dire que son truc à Pogacar, c'est déjà d'humilier Vingegaard. C'est-à-dire qu'il ne lui laissera aucune étape. À chaque fois qu'il voudra accélérer, il accélérera derrière. Après, le truc de le lâcher... Tu te souviens, on avait eu cette discussion sur Van Aert. Est-ce que Van Aert fait partie des GOAT? Tu te souviens, il y a 3 ans, j'avais pris un flot de petits mots doux de tous les supporters de Van Aert. Et que j'avais dit qu'à cette époque-là, oui, c'était un très grand coureur, mais il ne ferait pas partie des GOAT. Il nous le prouve aujourd'hui. Mais il nous le prouve par plusieurs manières. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne doit pas assurer cette place de Vingegaard? Est-ce que c'est pas dans le moment où c'est le plus compliqué?
Mais d'assurer
que tu vois
quoi? D'assurer sa deuxième place?
Mais il faut l'assurer
sa deuxième
place. Olive, c'est ça le problème.
Mais est-ce que t'as besoin de mobiliser toute une équipe?
Ah ouais.
Oui, est-ce que t'as besoin de mobiliser toute une équipe pour aller essayer de garder la place de Vingegaard sur le podium?
Mais il peut lui arriver quelque chose à Vingegaard encore.
Une équipe comme la sienne ne peut absolument pas se permettre de rentrer seulement avec une deuxième place. C'est pas possible. Et aujourd'hui la stratégie,
alors ils ont gagné une étape,
ils vont mettre
Simon Yates,
ils vont mettre un ou deux coureurs avec lui,
ça va
par étape, et le reste ça va mitrailler.
Mais ça va laisser des traces de quoi? De toute manière Vingegaard, ils vont le lâcher à la fin du tour, c'est fini.
Jérôme, allez, on va regarder les coéquipiers de Vingegaard. Sur quelle étape tu donnes il va y avoir un ticket pour laisser gagner un mec de la Visma.
Yates, Jurgensen, ils peuvent gagner avant tout.
Simon, pourquoi? Parce que je passe la journée avec lui, donc évidemment.
Ah oui, c'est. Le tour est bien avancé.
Il est en train de nettoyer les tasses à café devant moi.
Il est tôt pour
Jurgensen.
Tu l'embrasses, Pierre-Yves Leroux.
Tu vois, j'ai la profonde conviction que hier, si c'est Kuss à la place de Arensman, l'échappée va pas au bout.
Ouais. Oui. Et tu sens que s'ils avaient décidé,
si c'est un Visma, UAE ne laissera pas, et encore moins Pogacar. Clair, net et précis.
Jérôme, c'est encore autre chose parce que hier, je disais que je pense que le tort qu'a eu la Visma, c'est notamment dans sa com et sa façon de faire. Je pense qu'ils ont voulu écraser Pogacar. Ils ont trop péroré.
Il
y a quelques années. Je suis convaincu que Pogacar tire une force supplémentaire de la façon dont Visma comporté en public dont la façon dont Visma a manqué d'humilité. Ouais. Et je pense qu'il en tire une force supplémentaire et qu'il a, je vous dis, dans sa salle de bain, toutes les tronches de la Visma et qu'il a envie.
Et qu'il
a envie de prendre sa revanche et que cette revanche, elle n'est pas encore complète pour lui et qu'il a envie d'aller jusqu'au bout.
À l'arrivée à Otakam, le camion RMC était juste devant la ligne, donc j'ai pu aller faire un tour après le direct. J'ai croisé Mauro Gianetti avec qui j'ai échangé des mots. Il a clairement dit ça. Hein. Il m'a dit ça fait 2 ans qu'il a Otakam en travers de la gorge. Et ce matin, il y avait
rien à lui dire. Il voulait gagner et il voulait les écraser. Et ça va être la même
et
chose.
Et à la Lose, ça va être pareil, évidemment, parce qu'il l'a dans la tête.
Donc, le retard de Vingegaard à la fin du tour, c'est 7-8 minutes pour moi.
Je pense que UAE et Pogacar mettront un point d'honneur à ce que la Visma gagne
donc, Simon, t'es obligé d'être d'accord avec Jérôme et moi. C'est-à-dire que si, t'imagines, si la deuxième place ou la troisième se joue à 7 ou 8 minutes, mais derrière, quand tu t'appelles la Visma Lease Bike, il va falloir quand même que sur ton bilan du Tour de France 2025, il y ait quand même quelques étapes gagnées. Des maillots,
le problème, c'est lesquels.
Parce qu'ils ont peut-être pas repensé radicalement. Ils ont peut-être attendu trop tard pour repenser déjà trop tard.
Je pense que la Visma n'a que des choses à perdre.
Ils auraient peut-être dû la repenser il y a quelques étapes pour essayer d'aller en chercher sur du plat avant la montagne.
Je pense que la Visma n'a rien à gagner à changer de stratégie parce que UAE va tout faire pour empêcher la Visma de remporter des étapes. Et ça, UAE va vrai, essayer d'en mettre vrai. Le plus possible au général sur Vingegaard. Donc,
vite décoincé, t'as perdu.
Faut sauver la face, admettre ta défaite, mais garder ta ligne, parce que sinon tu te ridiculises.
Exactement.
On doit remercier Jérôme, parce qu'il a de la route, Jérôme Pinot.
Il y a des bornes.
Ah bah oui, là tu vas jusqu'à Carcassonne. Voilà, qu'est-ce qui conduit dans ces cas-là?
Christophe Cessieux, Carcassonne, c'est pas loin.
Il va vite, c'est ça? Faites attention.
Non, il respecte les limitations, évidemment. Bien.
C'est lui qui conduit, c'est lui le chauffeur.
On l'appelle Sessionnen dans notre petit groupe.
Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme.
Mais là, il est déjà le pied sur la pédale alors qu'il est dans le canapé, tu vois, tellement il est chaud.
Allez, on vous retrouve évidemment tout l'après-midi dans l'intégral Tour à partir de 13h. Ne pas rater cette 15e étape. On va continuer avec vous au 32-16 de parler de cette stratégie des frelons de la Visma dans un instant. Vous restez avec nous, on sera avec Philippe qui nous rejoint dans quelques instants. On en débat. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Sarah Pitkowski, Olivier Giraud, Alison Pinot, Simon Dutin. Ce matin, dans les grandes gueules du sport, dans un instant, ce sera le zapping des GG. On aura du Loïs Boisson dedans, du Manny Pacquiao, du Pierre-Emerick Aubameyang, sans doute également. Ça sera dans un instant. Mais d'abord, la suite de notre débat. Est-ce que la Visma doit lâcher Vingegaard, privilégier désormais les victoires d'étape? On était avec Jérôme Pinot il y a un instant. On est avec vous également au 32-16. Philippe, fan de vélo, nous a appelé ce matin. Il est avec nous. Salut Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Salut. Merci d'être avec nous, Philippe.
Tiens, puisqu'on parle de vélo, une petite parenthèse, il y a un groupe qui s'appelle les Lafayette sur toutes les plateformes, font des chansons assez caustiques sur le cyclisme professionnel. Ça devrait vous plaire au niveau des paroles.
D'accord, très bien. Bon, écoute, on va aller écouter ça. Tu n'es pas parolier ou chanteur, non?
J'en dirai pas plus.
Ah, d'accord. Non, mais... En fait, tu es chanteur. C'est ta deuxième vie, Philippe, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Mais, comme on aime
t'as
le
fait
vélo,
ta petite pub, tu as raison. Tu as raison d'en profiter, comme tu es là ce matin.
Bon, ouais. Alors la Visma, c'est un drame là, parce que Vingegaard, moi je suis désolé, mais il force mon respect là, il voit bien qu'il est plus faible, il essaye d'attaquer l'ogre Pogacar qui laisse des miettes, qui a laissé des miettes hier, et moi ils me font, je pense que même Pogacar fait en sorte qu'aucun équipier de la Visma ne puisse gagner une étape.
Ah, je suis bien d'accord avec toi, Philippe, il va y mettre un point d'honneur.
Pogacar, c'est Kill Bill, quoi, c'est la revanche.
Il fallait pas l'humilier comme ça, il fallait pas.
Je pense pas qu'il ait été humilié, mais je pense que c'est un faux mec sympa. Il est pas du tout. Il fait de la com, voilà. Et je pense que Vingegaard, qui a une image austère et tout, c'est plutôt quelqu'un de qui a pas la même mentalité. Mais Pogacar a pas supporté effectivement de prendre un tir il y a quelques années. Et là, il se venge. Et il n'oubliera jamais. Et s'il peut gagner 8 étapes, il en gagnera 8. Ouais. Et s'il peut mettre Vingegaard à 10 minutes, il va pas se priver.
Donc, qu'est-ce doit faire la Visma? C'est la question, Philippe, pour la fin de ce Tour de France.
La Visma, à mon avis, ils sont rentrés dans une logique. Ils auraient tort de changer de tactique maintenant et de privilégier une victoire d'étape. Il faut qu'ils continuent en se disant que Pogacar, il va peut-être avoir une défaillance un peu, même si on n'y croit pas. Oui, peut-être, pourquoi pas, on n'en sait rien. Peut-être qu'il va se retrouver encore dans une chute, ce qui n'est pas souhaitable, on est bien d'accord. On ne veut pas que ça se joue comme ça, mais ça peut arriver. Il est déjà tombé une fois. Voilà, et il faut jamais renoncer. Et imaginez qu'il arrive quelque chose à Pogacar ou une énorme défaillance ou une chute. Bah, Vingegaard, il gagne le tour et après tout le monde encense la tactique de la Visma. Alors que tout le monde leur tombe dessus en ce moment.
Ouais, parce que, en fait, tactiquement, que la Visma gagne une étape, voire deux, parce que l'équipe, elle explose en vol. Mais c'est l'image. Parce que s'ils commencent à attaquer chacun de leur côté, eh ben, Pogacar, il aura gagné. Il aura gagné et les aura doublement humiliés.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il serait même capable de dire tiens, vas-y, et laisser partir quelqu'un, tiens, t'as vu, je t'ai laissé ça. Et là, il aura fait exploser complètement la Visma. Mmh.
La stratégie, c'est pour se
faire moins humilier, surtout dans la reconstruction, parce qu'il faudra reconstruire. Si tu fais exploser la Visma maintenant et que chacun part dans son coin, ah, je peux te dire que tu peux déjà changer ton équipe pour l'année prochaine.
Philippe, tu as aussi pointé du doigt quelque chose d'intéressant. Tu dis, bon, bah voilà, Vingegaard, presque, il vous fait pas un peu de peine, vous, Vingegaard? Bah, si, parce que quand on le voit, moi, c'est ce que j'ai ressenti hier, Vingegaard, il a essayé, alors que c'est quand même quelque chose qu'on lui reproche souvent sur le Tour de France, de ne pas essayer, de ne pas tenter. Il a attaqué quand même hier et. Il peut rien faire et devant lui il y a Pogacar qui prend un malin plaisir sur la ligne d'attaquer et de gagner.
Pour moi le seul truc où il s'est humilié, il est très fort Vingegaard, c'est-à-dire que t'enlèves Pogacar mais il est 4 minutes devant le deuxième.
Ah oui, c'est mais ça il dit même qu'il a fait mais une bonne étape.
Pour moi le seul truc où il s'est humilié c'est là où il se trompe de tactique complètement avec des vélos pas adaptés pour le contre-la-montre et avec un casque on dirait Mario Bros quoi.
Oui,
c'est le seul truc où champignon. C'est humilié. C'est le seul moment où c'est humilié.
Mais il a fait quand même un bon contre-la-montre, malgré tout. Hein.
Et puis avec même son casque champignon. Toute l'équipe. Sebkos fait deuxième et Jorgensen fait sixième quand sur le contre-la-montre. Ils sont pas complètement à la ramasse, Visma, sur le contre-la-montre.
Ouais. Quand je vous dis effectivement sur ce que dit Philippe, le côté Vingegaard là, ce retournement un peu dans l'esprit des gens aussi de dire à l'époque Vingegaard, bah c'était le mec un peu froid que les gens n'arrivaient pas, les gens n'appréciaient pas même, hein, il faut le dire comme ça. Et Pogacar à l'inverse, le côté fantasque, le côté sympathique. Et là Philippe, il est en train de nous dire, bah en fait non, ça s'inverse peut-être.
Mais en France, on aime les poulies d'or, on aime les gens qui perdent. Je vais te le donner sur le tennis. À un moment,
il a changé quand même. Hein. Il a pleuré, on l'a vu pleurer aussi.
On était capable
aussi,
de siffler Nadal à Roland-Garros et de l'encenser à la fin de sa carrière quand on sait qu'il peut plus gagner. On est quand même un peu étrange. Nous, public français, on aime bien les deuxièmes.
Et
on n'aime pas les gens arrogants.
C'est plus facile de faire le cow-boy ou le shérif quand tu rinces tout le monde. Et bon, quand tu es deuxième, tu reviens soudainement un petit peu plus d'humilité.
Exactement.
Tu t'ouvres un petit peu plus aux médias sur tes failles, tes blessures.
Ah, vous croyez que c'est
quand
d'accord.
Tu domines, tu as le droit de ne pas parler aux médias et de dire voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort.
La vraie question, c'est combien de temps il va durer ce Poggi. Hier, il y avait une interview avec l'imagination tellement il contrôle le Tour de France et qu'il est le Tour de France actuellement, avec un départ en 2028 ou en 2029 qui partirait de Slovénie carrément.
Vas-y, enchaîne.
Donc,
tu me donnes des points pour ma contre-attaque.
Donc ça veut dire
pas, Olivier.
Ça veut dire qu'il est déjà programmé, même pour les organisateurs du Tour, sur les 4 ans à venir. Donc la vraie question, c'est oui, Vingegaard aujourd'hui, mais toutes les équipes qui vont affronter cet homme qui est aujourd'hui, il porte bien son surnom. Hein. C'est un cannibale, il va tout prendre.
Il est intouchable évidemment, Pogacar, on le voit, mais c'est pas forcément. Et ça, c'était un petit peu le débat qu'on avait hier avec les grandes gueules du sport. Ouais. C'est pas forcément bon signe pour la suite du vélo, parce que évidemment, si on se branche sur le Tour de France dans les 5 ans à venir et qu'on connaît le vainqueur dès le début, c'est pour ça que c'est Vingegaard, on a envie aujourd'hui de se dire Vingegaard, peut-être que c'est pas fini pour lui.
Le seul espoir pour ceux qui veulent voir un jour Pogacar battu dans les années qui viennent, c'est qu'il y ait une sorte de dilution un petit peu de la concurrence ou de renforcement de la concurrence. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a que Vingegaard qui peut, et encore c'est sur le papier, c'est avant que la course démarre, inquiéter Pogacar parce qu'il l'a déjà battu. Il faut qu'à l'avenir, il y ait d'autres coureurs qui puissent s'inviter au moins à défier Pogacar, qu'ils y arrivent ou pas, mais je veux dire qu'il y a d'autres équipes qui puissent le mettre en danger. Là, il y a que la Visma qui essaye de mettre en danger Pogacar. Cette année, ils sont moins forts. Bon, Pogacar domine outrageusement. S'il y a à l'avenir 1, 2, 3 autres coureurs qui peuvent s'inviter dans le débat avec des équipes qui construisent.
Tu penses que c'est un coureur ou c'est une équipe qui doit se construire?
Non, mais c'est l'équipe. Encore une fois, ils regardent, ils s'y mettent à 4 ou 5, ils n'arrivent pas à lâcher Pogacar. Pogacar. Donc,
mais il faut une grosse équipe, justement, face à Pogacar.
Oui, mais
face au UAE.
Regarde, il y a Evenepoel qui abandonne hier. Il a connu une énorme défaillance, mais il disait en début de tour, bon, moi, cette année, je vise le podium parce que l'équipe de la Soudal n'est pas construite autour de moi. Ils ont embarqué 3 ou 4 coureurs pour aider Merlière à gagner des étapes. Si à l'avenir la Soudal avec sa puissance de frappe construit une énorme équipe avec des Gregario qui peuvent qui ont gagné, je sais pas, des grands tours, qui peuvent contrôler le tempo d'une course, faire souffrir je sais pas, je fais de la science-fiction, c'est le petit Sexas qu'on annonce comme un prodige. Si tu construis une équipe qui te permet de...
Même dans son équipe UAE, il y a Almeida notamment dont on dit le plus grand bien.
Alors Almeida,
jeune,
combien
il
de temps
qu'il quitte UAE pour aller dans une autre équipe et devenir le leader.
Mais Almeida,
pourquoi pas l'adversaire de Pogacar.
Malgré le contrat qu'il a, je suis pas sûr qu'Almeida se contente toute sa carrière de servir les intérêts de Pogacar. Parce que comme tu le dis, il peut viser à l'avenir, lui, la victoire dans des grands tours. Donc voilà, mais tant qu'il n'y aura que la Visma et Vingegaard pour inquiéter Pogacar, ça ne marchera pas.
Au-delà de Pogacar et le fait qu'on connaisse avant même le début du tour le vainqueur, il se passe toujours plein de choses sur le Tour de France. Enfin, sur chaque étape, il se passe toujours plein de choses. Il y a des histoires à raconter. Oui, dans l'absolu, d'avoir un grand vainqueur avant le début d'une compétition, ça peut poser. Mais c'est quand même un sport et le Tour de France a cette spécificité qu'on nous raconte quand même. Plein d'histoires. Il y a des belles histoires, il y a des maillots. Combien de fois on s'est arrêté sur le maillot à pois pendant des années avec Richard Virenque et on s'en contentait. Et on s'en contentait.
Et là, il y a Lenny Martinez.
Et là, il y a Lenny Martinez qui est en train de grappiller des points pour essayer de garder ce maillot jusqu'au sur les champs.
Pour être top 5 aussi.
Je n'ai pas de doute sur l'intérêt grand public et médiatique du Tour de France au-delà d'une suprématie d'un Pogacar. Voilà.
Moi, je dirais qu'on va pas revenir sur les grands coureurs du Tour de France. Il y en a qui ont dominé de manière incroyable. Mais ce qu'a fait cette année Pogacar, c'est je sais pas s'il l'avait prévu, mais il a dessiné épisode par épisode son histoire. Il peut devenir l'un des mecs impossibles à rattraper en termes de palmarès, mais surtout en termes de défis, parce que souvent les grands gagnants du Tour, tu ne les voyais que sur les grands tours, Tour d'Italie, Tour d'Espagne, et après ils disparaissaient. Là, il est allé affronter sur leur terrain tous ses adversaires. C'est-à-dire que ce qu'il a fait sur les classiques, c'est vraiment du jamais vu, et ce qui fait que il décourage avant même que la course ait commencé tous ses adversaires les uns après les autres, parce qu'il les a défiés. Il n'y en a qu'un seul qui l'a battu. Et pour le battre, il a fallu qu'il aille le battre sur son terrain. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que c'était un spécialiste du cyclocross qui l'a battu.
Van der Poel, effectivement. Bon, on va arrêter ce débat et on va suivre évidemment cette 15e étape. Ça sera tout à l'heure à 13h sur RMC avec toute l'équipe de l'Intégral Tour. Alors, a priori... pas une victoire de Pogacar aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est plutôt pour des baroudeurs, mais bon, comme il veut tout gagner, on sait jamais avec Tadej Pogacar. On remercie Philippe en tout cas d'être passé au 32-16 et on reparlera évidemment du Tour de France la semaine prochaine dans les GG. Dans un instant, le zapping des GG, on va parler mercato de l'Olympique de Marseille et puis tennis, Loïs Boisson, on suit son parcours à Hambourg qui pour l'instant est une réussite. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 9h44, Simon Dutin, Alison Pinot, Sarah Pitkowski, Olivier Giraud sont là ce matin en pleine forme pour revenir dans quelques instants sur la désillusion française à l'Euro féminin battu, éliminé par l'équipe d'Allemagne au tir au but. Est-ce que c'est une faute professionnelle? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Et puis dans une heure, vous le savez, c'est le moment pour les grandes gueules de prendre les commandes de l'émission. Les GG contre-attaque, elles vont vous proposer un débat dans un instant, c'est à vous de choisir. Vous allez sur le compte X des Grandes Gueules du Sport pour voter. On vous écoute. Il va falloir être convaincant. Essayez d'être un peu plus court et discipliné, voilà, que hier. On va commencer par toi, Alison Pinot.
Gabby Williams.
Oui.
All-Star Game. Française qui, première fois de l'histoire, que quelqu'un fait le All-Star Game de la WNBA. Et dans l'anonymat le plus total, dans le plus grand des calmes.
D'accord, donc tu voulais en parler pour souligner.
Exactement, je trouve
cette
ça.
C'est une honte.
Ouais, c'est une honte pour moi.
Ok, très bien. Court, hein, efficace, Alison. Prends-en de la graine, Sarah.
Le Tour de France est une course à rayonnement international, mondial, mais est-ce qu'un départ en Slovénie renforcerait encore plus cette dynamique? avec Pogacar et Roglic qui sont au plus haut niveau. Est-ce que le Tour prendrait le pari de faire un départ en Slovénie?
La Slovénie que connaît bien Alison, d'ailleurs.
Tout à fait.
Voilà.
Il y aurait des jolies petites villes et des.
Ah,
petites...
bah on va parler Slovénie. Tu veux nous faire une petite carte postale? Bah,
la carte postale, sympa. Mais il y a aussi les terrains accidentés en Slovénie qui pourraient être un terrain idéal pour un départ du Tour.
Pas mal. Olivier.
Eh ben, tu sais, des fois, tu penses à tes contre-attaques et on te la souffle. Et moi, c'est un pote Fifi qui me l'a soufflé. Celle-là, on a regardé la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et un truc qui nous a surpris, c'est Trump. Qui a fait du Trump avec le trophée dans les mains, ne sortant pas du podium, et que derrière cette photo plutôt amusante, parce qu'on s'attend toujours à tout avec Trump, c'est est-ce que le football mondial n'a pas déjà changé ?
D'accord. Oula, grande question pour Olivier. Simon.
Fabien Galthié, après la troisième défaite en trois matchs de la tournée du 15 de France en Nouvelle-Zélande, qui a convoqué le vieux serpent de mer du calendrier international, en disant que grosso modo on est condamné à aller prendre des raclées, enfin même si on a été plus que digne dans ces défaites. Voilà, est-ce que il a tort ou est-ce qu'il a raison? Est-ce que
c'est de la faute du top 14?
Est-il encore nécessaire de parler du calendrier? Voilà, on a un modèle différent dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, et je crois qu'on est condamné à le conserver, malheureusement.
Du basket, du vélo, du rugby et Donald Trump. Voilà, bon, c'est assez varié.
Si vous pouvez aller sur Trump, je comprends plus rien.
Sur les comptes, le compte X des grandes gueules du sport, et le résultat, évidemment, vous le savez, ça sera dans une heure. Mais d'abord, c'est l'heure du zapping.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, je rappelle le principe, Alison, bon, tu l'as compris quand même, t'as pas besoin non plus de deux émissions pour comprendre, il est assez simple ce principe, mais bon, je le répète, je vous donne des infos de la semaine, vous me dites si ça vous intéresse ou non, si ça vous intéresse, vous en parlez, sinon vous passez votre tour. On en a parlé un petit peu hier, mais elle est en finale désormais, Louise Boisson, en finale du tournoi de Hambourg. On s'en fout, on s'en fout pas. Olivier Giraud.
On s'en fout pas.
Sarah Pitkowski.
Bon, on s'en fout pas.
Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Alison Pino.
Je m'en fous pas non plus.
On en a parlé hier, mais c'est sa première finale WTA. 6-7-6 hier face à Jastremska, l'Ukrainienne. Elle affronte aujourd'hui une Hongroise, Anna Bondar, en finale sur la terre battue de Hambourg. Simon, t'étais là hier et t'as pas pu en parler de Louise Boisson, donc vas-y, je t'écoute.
Ça alors, j'aurais juré que encore une fois,
c'est pas Sarah, hier, elle en a parlé.
J'aurais bossé un petit peu mon...
Ah bon, bah alors vas-y, je te donne la balle à Alison, sinon.
Évidemment, ravi, parce que on avait évidemment la crainte que ce soit un feu de paille, que son périple, son odyssée à Roland-Garros reste sans lendemain, puisqu'en plus ça s'est pas bien passé sur gazon, elle a été éliminée en qualif à Wimbledon. Voilà, moi je suis sous le charme de cette jeune joueuse qui joue sans complexe, qui met des tartes en coup droit, qui martyrise ses adversaires, qui a fait cette irruption absolument météorique sur le circuit. Donc je ne peux que me réjouir qu'elle confirme quelques semaines après avoir digéré tout ce qui l'a entouré, parce que c'est vrai qu'on n'en parlait plus beaucoup forcément. Les médias s'en sont aussi vite désintéressés qu'ils s'en étaient emparés après Roland Garros.
Parce qu'en fait, chaque match qu'elle va jouer, en fait, elle va avoir l'actualité. Exactement. C'est-à-dire que
là, c'est
gagne,
quand même un tournoi
gagne,
250,
c'est normal,
et on en parle.
Elle perd, c'est pas normal.
Et c'est pas le
déroulement du tennis, puisque généralement tu perds une fois par semaine au tennis. Ouais. Et donc en fait, on va étudier chacun de ces matchs.
Là, c'est la rançon de la gloire, Sarah.
Oui, la gloire, elle l'a pas cherchée. La gloire, c'est parce qu'elle a fait un parcours exceptionnel à Roland-Garros. Mais le plus dur, c'est que le classement qu'elle a aujourd'hui, c'est pas le classement qu'elle joue tous les jours. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre.
Hein, si elle gagne.
Elle est top 50, mais elle joue pas top 50 encore tous les jours. Ça met du temps à être top 50 sur 12 mois de l'année. Mmh. Donc en fait, à chaque match, on va estimer que les filles qui sont derrière le top 50, c'est normal qu'elles les battent. Mmh. Et c'est là qu'il faut appuyer sur le fait que cette finale est dans tout point remarquable. Déjà parce que c'est la première fois qu'elle est en finale d'un tournoi WTA, et que gagner 4 matchs sur terre battue à ce niveau-là, en dehors de Roland-Garros, ça ne l'avait jamais fait. Et pour avoir vu quelques points, j'ai pas vu tout son match, c'est vraiment un match abouti hier. Autant avant, c'est un peu... Tu sens qu'elle se cherche encore. Là, au niveau tennistique, sur terre battue, c'est abouti.
C'était la tête de série numéro 1 du tournoi,
Stremska. Vraie joueuse de terre battue.
Un mot, Olivier ou Alison, on zappe, on passe à autre chose.
Non, non, on zappe pas. Moi, je vais plutôt partir sur le fait qu'il y ait une Française qui soit bien positionnée. On sait la manière dont on a, dans notre pays, de supporter les Français et les Françaises. Tu avais un mot très juste hier sur... ce qui se passe à peu près sur les, réseaux sociaux actuellement. S'il y a un mot à dire, c'est des athlètes comme ça, il y en a dans tous les sports. Ça surprend toujours dans le tennis, j'ai l'impression que une athlète soit vraiment une athlète. C'est-à-dire que pour avoir le physique qu'elle a, c'est énormément de travail. C'est énormément de travail et ça doit être respecté. Donc s'il y a un mot, c'est supportez-la. Supportez-la, tout simplement.
Voilà. On s'arrête là où Alison?
Non, c'est bon, je pense que tout a été dit, mais après le lynchage qu'elle a eu, après Wimbledon, sérieux, je suis très très contente pour elle.
On va suivre évidemment cette finale, nous, sur RMC. Du foot, avec Pierre-Emerick Aubameyang, je vous donnais l'info hier, mais on peut en parler aujourd'hui, qui devrait faire son retour à l'Olympique de Marseille. On s'en fout? On s'en fout pas, Olivier Giraud?
On s'en fout pas.
Simon Dutin?
Moi, je m'en fous, j'en parle tous les jours.
Ça rapide comme ça.
Je passe mon tour sur l'OM.
Alison Pinault?
Je m'en fous, je suis du PSG.
Olivier, tu vas être le seul à réagir à cette info RMC Sport. Les négociations avancent très bien entre l'OM et Aubameyang. Les deux parties se sont rapprochées ces dernières heures. Elles espèrent un accord définitif pour un retour à l'OM. Lui qui a joué il y a deux saisons, qui avait marqué quand même 30 buts, toute compétition confondue, et qui a résilié son contrat avec son club saoudien.
Moi, je m'en fous pas, parce que moi aussi, je suis PSG depuis très longtemps, et on a toujours regardé l'OM, et l'OM, on a besoin d'un grand OM. Et l'OM va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, et je me pose des questions toujours sur leur recrutement. Et on n'insulte jamais l'avenir. Mais déjà, à l'époque, il y a deux ans, quand Aubameyang est arrivé, on se posait déjà tous la question si ça allait être la bonne pioche. Il a montré qu'il avait des qualités énormes.
36 ans,
et même avec ses qualités, et ben il est parti de l'OM. Et deux ans plus tard, on se posait déjà la question de son âge il y a deux ans, et il revient pour jouer la Ligue des Champions. Et on ne se pose pas la question si c'est encore un bon choix. C'est-à-dire que là où toutes les... Mais là où toutes les équipes se posent des questions sur le foot de demain, sur les kilomètres à courir, les nouvelles stratégies des équipes qui jouent le haut du tableau dans la Ligue des Champions, et ben l'OM repart encore dans un système qui me paraît encore ancien. Prendre des noms, des Ravanelli qui est maintenant au club, ou des gens plutôt en fin de carrière, avec tout le bien que je pense d'Aubameyang, parce qu'il a été un joueur exceptionnel et il l'est toujours, je le pense.
Mais pour les, c'est une mauvaise idée.
Mais pour ces objectifs là, on n'insulte jamais l'avenir. Et ben ça pose question.
Ok. Autre info, Manny Pacquiao, c'était cette nuit. Il était de retour sur le ring après deux ans d'inactivité à 46 ans. On s'en fout? On s'en fout pas, Alison Pinault?
Tu m'en fous.
T'étais à deux doigts du air zapping, ce qu'on appelle le air zapping. Hein. Ton premier air zapping, peut-être. T'étais pas loin. Simon Dutin?
Je m'en fous.
Ça rapide comme ça.
Oh, je m'en fous, je dormais.
Olivier Giraud?
Non, mais je vais pas me retrouver tout seul à parler de tous les débats. Quand
vous voulez pas en parler?
Moi, je m'en fous pas, mais on va aller très, très
rapide. Non, mais juste dire qu'il affrontait Mario Barrios, un combattant qui était 16 ans plus jeune que lui à Las Vegas, et aussi donner le résultat, puisque les deux combattants n'ont pas réussi à se départager au bout de 12 rounds. Match nul entre les deux, et l'adversaire de Manny Pacquiao a dit il est encore.
Il a quel âge,
encore
Pacquiao?
Très fort, 46 ans.
46. Oui, c'est une des particularités de la boxe également. Mais dans cette catégorie-là, dans les catégories, on l'avait vu avec Foreman, poids lourd, le poids lourd avec un coup, tout peut se passer. On l'avait vu avec Foreman qui est redevenu champion du monde. Dans cette catégorie-là qui est ultra compacte où il y a tous les meilleurs talents, je suis pas sûr de ce retour, même si on a vu que hier, Usyk a, lui, avec 10 ans de plus.
38 ans, Usyk.
10 ans de plus que son adversaire, il lui a mis une leçon de boxe. Et Usyk est le meilleur boxeur de tous les temps aujourd'hui. Il a réuni toutes les ceintures. Enfin! Espérons qu'on fasse qu'une seule ceinture. Voilà, si on peut finir là-dessus, en passant par Pacquiao, c'est très bien.
Heureusement que Olivier Giraud était là pour ce zapping. Je vous remercie pas les autres. Je vous donne aussi un rendez-vous à cet après-midi, 14h, à ne pas rater, la MotoGP Grand Prix de République Tchèque, avec à la troisième place sur la grille de départ, Fabio Quartararo, le français, derrière Bagnaia et Marc Marquez. On en parle évidemment à 14h sur RMC. On suivra cette course. On revient dans un instant avec notre bras de fer des GG pas contentes après l'élimination des Bleus à l'Euro féminin. Est-ce que c'est une faute professionnelle? 32-16 pour nous rejoindre. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.